pourquoi, comment on en est arrivé là. Eh bien, je pense qu'il y a eu un renversement d'alliance dans les années, disons, 80, on peut dire 80-90. Et renversement d'alliance qui s'est fait dans un certain contexte. Qu'est-ce que c'est, ce renversement d'alliance? Eh bien, ici, bon, je présente de manière simplifiée des théories qui ont été développées plutôt par des spécialistes de sciences politiques aux États-Unis principalement, qui nous expliquent, voilà, que si on veut comprendre ce qui se passe dans, au niveau financier dans un pays, il faut repérer trois grands groupes. L'État, le gouvernement, l'industrie, la finance. Et ces trois grands groupes passent des alliances, passent des compromis. Ils peuvent s'allier. Un État peut s'allier avec l'industrie pour contrôler la finance, ou la finance peut s'allier à l'État pour contrôler l'industrie, ou les deux peuvent s'allier pour contrôler l'État. Et ça, ça a évolué. Ça a évolué. Ça a évolué dans la plupart des grands pays. Aux États-Unis, on avait plutôt un contrôle, donc la flèche était pendant les deux sens, on avait plutôt un contrôle, donc une flèche dans ce sens-là, de l'industrie sur le gouvernement et une interrelation industrie-finance. Et encore, c'était quand même plutôt l'industrie qui contrôlait la finance. Donc, aux États-Unis, un poids important à l'industrie, un gouvernement contrôlé par les industriels et une finance largement au service de l'industrie. Ça va basculer et on va en fait voir la finance prendre le pas sur les autres, dénoncer donc, elle va obtenir grâce, on précisera un petit peu plus loin, grâce à des actions de lobbying, elle va obtenir la disparition de toutes les lois qui freinaient son développement et donc on passe à un système où la finance, on a une flèche dans ce sens-là seulement, et ici aussi, où la finance contrôle le gouvernement et l'industrie, dans le cas des États-Unis. Dans le cas de l'Allemagne, on avait, effectivement, c'était bien connu, un compromis historique entre industrie et État, gouvernement, une finance puissante, mais qui est restée contrôlée jusque à la fin des années 50, début des années 60, c'est là où le compromis va évoluer le plus tôt et où on va voir donc la finance s'allier avec le gouvernement, s'allier aussi avec l'industrie, mais le poids va rester donc important au niveau de la finance. En France, on avait un système qui était, où c'était plutôt l'État et le gouvernement qui avaient du poids, qui contrôlaient largement l'industrie, donc une flèche qui allait dans ce sens-là seulement. Avec la finance, la flèche allait quand même dans les deux sens. On a eu plusieurs présidents de la République qui venaient du monde de la finance, ils ne l'annonçaient pas largement, mais c'était le cas. Donc, elle allait quand même dans les deux sens. Et puis, une industrie qui maîtrisait quand même la finance. Donc un système où la finance quand même était au service de l'industrie, et l'industrie contrôlée par l'État, le gouvernement. Là aussi, ça va basculer, et on va voir donc une finance qui va prendre le pas sur le contrôle du gouvernement, et qui va également contrôler l'industrie. Donc on a des renversements d'alliances entre ces trois groupes, et dans la plupart des pays, c'est le groupe finance, généralement donc allié avec le groupe État, gouvernement, qui va, disons, prendre le contrôle. Comment est-ce que cela a pu se faire? Eh bien, ça s'est fait dans ce qu'il faut appeler la dérégulation libérale. Ça s'est fait à peu près à la même époque, et on peut le repérer dans deux grands pays, mais en France aussi, c'est Reagan aux États-Unis, la présidence Reagan aux États-Unis. Les années, c'est 1981-1989. Margaret Thatcher, en Grande-Bretagne, qui est au pouvoir entre 1979 et 1990. Oui, c'est la même période. En France, c'est moins net. C'est à cette époque-là que le lobbying bancaire s'organise, y compris au niveau mondial, dans le cadre de l'Institute of International Finance, créé en 1983, qui est un lobbying de l'ombre, mais qui a quand même pignon sur rue à Washington. Ils ont une adresse. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans tous les pays, à cette époque-là, on va déréglementer. On va déréglementer dans un contexte de libéralisation. L'idée, c'est, on dit, oh là là, mais maintenant, tout fonctionne bien. Donc, toutes ces vieilles lois tatillonnent, ça empêche de fonctionner. Il faut les faire disparaître. Et on va voir tout un lobbying qui va s'organiser à tous les niveaux, dans tous les pays, pour faire disparaître des lois qui, en particulier dans le monde bancaire et financier, avaient été mises en place au moment des crises. Donc on voit bien à quoi elles servaient, ces lois. C'était des lois anti-crise. Mais à cette époque-là, on a dit non, non, mais il n'y a plus de crise. Aucun risque de crise. Donc, faisons disparaître ça. Moi, pour mes étudiants, je prends souvent l'exemple d'un immeuble de bureau, vous savez, où il y a des portes coupe-feu. Au début, on les maintient ouvertes, on les bloque un peu. D'abord, on passe plus vite. On met les cales. Puis les cales s'enlèvent, etc. Puis à la fin, il y a quelqu'un qui dit, mais il y a longtemps, il n'y a jamais eu d'incendie dans cet immeuble. Et on enlève les portes coupe-feu, et là, on circule bien mieux. Et puis un jour, il y a un incendie. Et puis, il n'y a plus de portes coupe-feu. Dans le monde de la finance, dans les années 80-90, mais surtout 80, on a fait disparaître tous les coupe-feu. Toutes les lois qui restreignaient les activités ont disparu. C'est le cas très net, le cas était très très net aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, les banques ne pouvaient intervenir, sauf quelques-unes, mais la règle générale, ne pouvaient intervenir que dans un seul État. Ça restreignait totalement leur activité. Les activités, comme en France, de banque de dépôt, de banque d'affaires, étaient complètement séparées. Il y a ce qu'on appelait une muraille de Chine. Les taux d'intérêt étaient réglementés. Il y a une réglementation très très forte. Le résultat, d'ailleurs, c'est que dans les années 80-90, dans les classements mondiaux de banques, les banques arrivaient en tête, c'était les banques européennes, françaises, allemandes. Les banques américaines, elles pointaient à la 15e, 20e place ou plus loin. Ça s'est organisé autrement. Les spécialistes, à cette époque, mes confrères américains, ont tiré la sonnette d'alarme à ce moment-là. On dit, attendez, vous allez faire apparaître des monstres financiers. Vous êtes en train d'ouvrir la boîte de Pandore, vous ne pourrez plus rien contrôler. Et effectivement, bon, toute la réglementation donc, a disparu. Avec des, pour vous dire le niveau des lobbying, c'est que dans la dernière campagne présidentielle où il y avait McCain, donc, qui était candidat contre Obama, celui qui menait la campagne pour McCain et qui était pressenti, si McCain allait gagner, pour devenir secrétaire d'État au Trésor, était depuis 10 ans le chef du lobbying bancaire aux États-Unis. Donc il ne s'en cachait même pas. Ce n'est pas un secret. Hein. C'était lui qui avait mené toutes les campagnes pour faire disparaître toutes les réglementations, coercitives du monde bancaire et du monde de la finance aux États-Unis. On peut se dire, avec un peu, évidemment, une certaine frayeur, sans prendre position non plus dans les élections américaines, Moi, j'étais assez satisfait de ne pas le voir arriver au pouvoir. Au moment de la, c'est lui qui aurait été au pouvoir et aux manettes au moment de la crise, crise 2008-2009. Qu'est-ce qui serait passé? J'en sais rien. Les dernières mesures qui ont été prises, c'est quand même par ce type d'administration, ont été une catastrophe. Quand Bush, fils, a dit, bon, Lehman Brothers a péché, ils ont exagéré, on les laisse s'effondrer, c'était une absurdité. C'était une absurdité. Mais une absurdité libérale. Dénoncé même par les gens de son camp. À l'époque, il faut revoir les je l'ai vu à la télévision, on voyait le président de la Fed, de la Réserve fédérale aux États-Unis, qui était je connais, c'est un prof d'économie américain, Bernanke s'appelle, c'est un collègue, on le voyait, il pinçait du nez. Il ne pouvait pas se retenir, il savait que c'était une catastrophe. C'est ce qui a déclenché, à partir de là, la crise. Pourquoi Bush a fait ça? Pour punir, dans une optique purement idéologique, pour punir cette banque qui avait triché, en quelque sorte, en disant, voilà, c'est un excès, on est pour le marché, mais s'il y a des excès, on punit. Pensez-vous, ça a amené tout l'effondrement. Voilà donc des exemples. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, l'explication quand même fondamentale, c'est ça. C'est ça. C'est le fait qu'on a fait disparaître toutes ces barrières. Toutes ces barrières. Alors, est-ce qu'il y a des solutions? Sans doute les mêmes que celles qui ont été trouvées pour les crises précédentes. C'est de remettre une partie de ces barrières. Alors, est-ce que ça suffira? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais c'est un des éléments. Les États-Unis ont commencé à en remettre en place un certain nombre. Il y a une législation qui est beaucoup plus restrictive. C'est aujourd'hui, dans le monde, c'est une des plus restrictives. Ça n'a pas été suivi par ailleurs. La Grande-Bretagne devait suivre, normalement. Et puis, il y a eu un changement de majorité, donc ils ont arrêté. Donc c'est en arrêt. Il y a quand même aujourd'hui une pression très très forte. Et donc même ceux qui, disons, pour des raisons idéologiques, n'étaient pas pour des réglementations, pour revenir à une réglementation, ont été quand même contraints d'admettre qu'il fallait en rajouter un peu. Donc il y a un certain consensus au niveau européen, sans doute, pour ramener un certain niveau de réglementation. Ça fait partie des éléments de solution. Ça risque d'être insuffisant. À mon avis, on a laissé quand même grossir des puissances financières qui sont aujourd'hui difficilement contrôlables. Et donc, pour conclure sur la question que je posais au départ, est-ce que les banques ont pris le pouvoir? Est-ce que les marchés ont pris le pouvoir? Certains marchés, certaines banques, oui. Pas toutes les banques. Votre banque de détail, elle n'a pas pris le pouvoir. Et elles peuvent, quelle que soit la réglementation, elle continuera à fonctionner à peu près de la même manière. En revanche, il est vrai, sans doute, que certaines banques, dans certaines activités, en particulier la banque de financement et d'investissement, ce qu'on appelait la banque d'affaires avant, joue peut-être un rôle trop important, insuffisamment contrôlé. Et puis surtout, on a ces énormes fonds d'investissement, de pension, fonds spéculatifs, qui sont un peu réglementés, mais beaucoup moins que les banques. Hein, on parle beaucoup de la réglementation des banques, qui, eux, sont quand même peu réglementé, parce que c'est de ce qu'on appelle des fois du shadow banking. Donc, ils sont dans l'ombre. Et c'est sans doute là qu'il faudrait réglementer, mais à mon avis, c'est très difficile. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Alors, il nous reste un peu de temps pour des questions.
Où en sont les décisions pour réformer tout ça? Il y en a-t-il eu?
Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de décisions. Alors, ce qui semble se passer, ce que j'entends dire, parce que j'ai pas toujours les moyens de contrôler, c'est que beaucoup de décisions ont été prises sur le papier sans toujours être véritablement suivies des faits. Les choses avancent, ça a l'air d'avancer doucement. Certains milieux freinent évidemment énormément en continuant à dire « mais on a compris, on va se réglementer nous-mêmes, on va se contrôler nous-mêmes, donc c'est pas la peine de rajouter des réglementations ». Moi, je ne crois pas trop là, parce que le risque de l'auto-réglementation, c'est que ça se régule par le bas. C'est-à-dire, chacun pense que le voisin va moins se réglementer, et donc du coup, ben, lui, il ne va pas le faire, je ne le fais pas non plus. Et cela étant, je crois que l'idée avance. La plupart des gouvernements en Europe sont quand même conscients du problème.
Monsieur, est-ce que on peut connaître à peu près l'impact des transferts par SWIFT des particuliers, par exemple, au travers des banques ou des officines genre Norwich Union ou quelque chose comme cela? Quelle importance ça a dans les transferts globaux sur un plan international? On
n'en
parle
nulle part. Oui. Alors, l'essentiel, de toute façon, est transféré ainsi. Hein. L'essentiel est transféré ainsi. Aujourd'hui, enfin, tous les transferts, de toute façon, se font sous forme numérisée. Hein. Se font sous forme numérisée.
Ils sont libres.
Oui, oui. Alors, quand les monnaies sont convertibles, oui. Quand les monnaies sont convertibles ou à l'intérieur de zones monétaires, bon, en Europe, il y a effectivement, il n'y a pas de contrôle. C'est pas totalement non contrôlé. Sur des montants élevés, il peut y avoir des contrôles, mais sinon, les transferts de fonds sont libres. Vous pouvez transférer 100 millions d'euros, si vous voulez, en Allemagne, on ne vous dira rien. Hein.
Parmi les mesures envisagées, est-ce qu'il n'est pas illusoire de croire qu'une réglementation des marchés financiers par quel que soit le taux, par une taxation, ne sera pas illusoire compte tenu de la disproportion des marchés dérivés par rapport aux marchés qui, eux, sont connus et quantifiables?
Oui, non, mais vous avez raison. Vous avez raison. C'est... La question de la taxation est intéressante. Moi, je pense que vous l'avez bien vu. Je pense qu'il y a excès quand même dans l'ensemble des mouvements, financiers. Donc, c'est une solution qui permettrait de réduire en créant un coût supplémentaire, donc qui supprimerait un certain nombre de mouvements financiers. Par exemple, on a sur les marchés actions. Il y a tout un ensemble d'ordres automatiques. Ce ne sont même plus des individus qui passent les ordres, ce sont les ordinateurs. Donc, c'est les ordinateurs qui passent les ordres entre eux. Ça ne sert à rien, quoi, du coup. Hein. Une taxation permettrait d'éviter ce système d'ordre automatique qui ne font que faire osciller les cours sans que c'est... une influence... on n'a pas besoin qu'il y ait autant d'ordres pour arriver à un cours stable. Quoi. Donc, mais je pense que ça serait difficile... moi, je reste persuadé que c'est quand même difficile à mettre en œuvre. Hein. Ça, c'est sûr.
Hein. Vous disiez que la majeure partie des marchés dérivés...
Quand c'est de gré à gré, c'est quasi impossible. Quoi. Parce que c'est déclaratif. Ça sera déclaratif, donc... Alors, pour compléter, en revanche, il y a un argument qui tient moins, c'est l'argument de la délocalisation. ça n'entraînerait pas forcément autant de délocalisation que ça des mouvements, ne serait-ce que parce que d'autres pays ont envie de faire la même chose. Moi, je lisais dans un ouvrage, j'ai vu ça récemment, donc c'était rapporté par un député européen, qui expliquait que donc effectivement qu'il y avait du lobbying donc auprès des députés européens en disant mais ne passez pas de directives, votez pas des directives là-dessus parce que ça va se délocaliser aux États-Unis. Et puis ils ont eu un voyage aux États-Unis et ils ont rencontré leurs homologues américains qui leur ont appris que les lobbyistes aux États-Unis expliquaient qu'il ne fallait pas effectivement taxer aux États-Unis parce qu'ils allaient se délocaliser en Europe. Donc j'ai dit, bon ben, voilà. Hein. Donc du coup, l'argument n'existe pas, sans doute pas, pas autant que ça. Même si c'est facile de localiser, il restera toujours des paradis fiscaux, ça c'est sûr. Mais là aussi, c'est contrôlable. Difficilement, mais c'est contrôlable. Cela étant, il ne faut pas non plus que ces mesures coûtent plus cher à mettre en œuvre que ce qu'elles vont rapporter, évidemment.
Vous défendez une partie en inflation, d'ailleurs beaucoup d'économistes. Mais alors, comment compensez-vous le préjudice du créditeur ? Le créditeur va subir. Comment voyez-vous la chose ?
Alors, est-ce que c'est un préjudice ? Quand vous fixez un taux d'intérêt, donc le créditeur donc, va fixer un taux d'intérêt qui comporte une anticipation d'inflation. Donc, ce n'est pas l'inflation qui va poser problème, puisque donc, si son anticipation est correcte, il ne se passera rien. En revanche, effectivement, si l'inflation est plus élevée que son anticipation, il y aura un transfert effectivement, du créditeur vers le débiteur. Bon, ben moi, ça ne me gêne pas plus que ça, parce que je pense qu'une économie a du mal à fonctionner s'il y a trop de créanciers qui prélèvent sur cette économie. Une économie ne fonctionne bien que si les taux d'intérêt réels sont relativement bas, et si aussi on a quelque chose qui ressemble à une espèce de droit à l'erreur qui gomme, en quelque sorte, de temps en temps, les erreurs ou les excès du passé. C'est en ce sens-là que je suis favorable à une certaine dose d'inflation, mais ça renvoie, si vous voulez, à la vieille vision de Keynes, hein, qui était pour la monnaie fondante, et je ne suis pas très éloigné de ce genre d'idée. Je comprends parfaitement que ça gêne les créanciers, ça c'est
sûr. Le créancier, s'il anticipe l'inflation, il va donc augmenter ses taux d'intérêt.
Oui.
Donc à ce moment-là, vous allez avoir une incidence sur les prix.
Ça peut pousser.
Donc à ce moment-là, vous risquez au contraire de freiner le développement économique.
On a connu ça dans les années 70, où les prêteurs étaient toujours dépassés par l'inflation, et il y a eu une inflation, on est monté à 15% d'inflation par palier,
oui.
et tous les gens qui avaient prêté de l'argent 10 ans avant se sont retrouvés complètement coincés. Donc moi, de ma jeunesse, j'aurais connu, autant j'ai profité de l'inflation pour acheter ma maison, autant mes voisins qui étaient plus âgés que moi étaient perdus de l'argent tous les ans, du fait de l'inflation, parce qu'ils avaient de l'argent placé. Donc, et il s'est monté de plus en plus haut, finalement, jusqu'à ce qu'il y ait eu des politiques qui ont retourné la situation dans les années 80.
Rien n'empêche d'indexer une partie, par exemple, de l'épargne populaire, d'un certain nombre de gens, pour éviter qu'ils ne perdent... qui ne perdent de l'argent. Je crois qu'effectivement, la difficulté avec l'inflation, c'est de la maintenir. C'est de la maintenir, c'est d'éviter que ça dérape et qu'on arrive à des inflations à deux chiffres. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où le risque de dérive vers une inflation forte existe peu, et donc on pourrait laisser filer un petit peu plus. sans que ça porte énormément préjudice aux différents créanciers.
Oui, c'est parce qu'il y a un cinéma en train de se passer, avec les injonctions massives monétaires qu'il y a eu ces derniers temps, que ce soit en France, enfin en Europe ou aux États-Unis.
Alors c'est différent en Europe ou aux États-Unis. Les injections monétaires de la BCE en Europe se font sur le marché monétaire en direction des banques. Donc ça ne crée pas un euro de monnaie supplémentaire. Ça n'en créera que si les banques réinjectent cette monnaie dans l'économie, sinon ça ne crée rien. À la différence de la Fed des États-Unis, où la Fed peut intervenir directement et donc peut créer, effectivement, participer directement à la création monétaire. Mais la BCE ne participe pas directement. Et donc, même le mécanisme utilisé par la BCE, effectivement, est lui aussi très peu inflationniste. Il n'y a pas vraiment de risque, à mon avis. Les banques, d'ailleurs, le réinjectent peu.
Est-ce que vous pourriez parler du lien entre la croissance et l'inflation ? Effectivement, les pays qui ont pas mal de croissance sont des pays aussi qui ont de l'inflation.
Alors, c'est un lien qui est très, très discuté. C'est-à-dire que ceux qui veulent contenir l'inflation, ont une vision négative ou très négative d'inflation, vont vous sortir des statistiques qui vont vous montrer effectivement qu'il y a un lien négatif entre les deux. Ceux qui sont plus nuancés ou qui ont moins peur de l'inflation vont vous montrer aussi d'autres statistiques mettant en évidence que, à part quelques cas isolés, il n'y a pas vraiment de lien très très net. Je pense que, effectivement, par certains côtés, l'inflation peut être un frein à l'activité économique et à la croissance économique, c'est vrai, je ne le nie pas, mais par d'autres aspects, ça joue un rôle, disons, propulseur. Et ben, c'est le rôle d'une banque centrale, d'un gouvernement, peut-être, que de contrôler ça et d'arriver, dans certaines périodes, lorsqu'on en a besoin, il ne s'agit pas d'injecter de l'inflation à tout va et n'importe quand, mais dans des périodes où ça peut s'avérer nécessaire, ça peut être intéressant. Moi, je pense qu'on ne sortira pas, de toute façon, de la période de surendettement où on est sans une dose d'inflation. Je n'imagine pas, je ne sais pas comment tout cela pourra être remboursé. Le cas de la Grèce, la Grèce ne pourra pas, il ne faut pas rêver, la Grèce ne pourra pas rembourser sa dette. Elle ne peut pas. Et d'autres pays non plus. Donc quand les dettes arrivent à un niveau aussi élevé que ça ne peut plus se rembourser. Donc soit il faut des moratoires, des cessations de paiement, mais on a vu qu'avec le système des CDS, puisqu'on a mis des assurances, ça pose problème. Donc du coup, c'est un peu difficile à mettre en œuvre. L'autre solution, c'est une certaine dose d'inflation qui allégera la dette. C'est ce qui s'est passé là aussi dans les 30 glorieuses. Toute une partie de la dette a été allégée ainsi. Moi, je pense que si la croissance se fait trop au profit des créanciers, ça finit par brider la croissance. Donc il faut qu'une partie soit récupérée par un espèce d'impôt sur la collectivité. Et l'inflation joue un peu ce rôle d'impôt collectif. Je suis d'accord pour dire que c'est dangereux à manier avec précaution. Mais...
Oui. En première partie, vous avez évoqué le chiffre de 25 000 euros par habitant.
Oui.
Pendant la même période, c'était la constitution de cette dette pendant les 30 années. Quelle est l'évolution du patrimoine moyen par habitant ?
Dans la même période ? Non, mais là, ce n'est pas une évolution. C'est aujourd'hui, on est endettés tous à hauteur d'environ 25 000 euros.
Avant, il y a une trentaine d'années.
Oui.
Donc, est-ce que depuis une trentaine d'années, le patrimoine moyen par habitant a augmenté de plus de 25 000 euros ? Si le petit patrimoine augmente encore,
oui.
Finalement, c'est pas un problème, c'est
Oui. Sauf que vous raisonnez en interne, en quelque sorte. Cette dette, pratiquement pour les trois quarts, on la doit à des gens extérieurs à la France. Donc c'est le fait que le patrimoine des Français ait augmenté, parce qu'effectivement, on pourrait dire, du coup... alors je vois l'autre idée, c'est de dire, finalement, on pourrait l'apurer aussi avec une réduction du patrimoine. Ou, oui, oui. Non, mais je pense que ce n'est pas une catastrophe, cette dette. Je vous l'ai dit au départ, moi, c'est pas vraiment ça qui me fait peur. Bon, c'est normal qu'un État soit endetté. Un État, ça fonctionne de manière endettée. C'est un élément de croissance. Donc, le seul problème, c'est qu'il faudrait que dans des périodes de forte croissance, les États se désendettent pour retrouver de la marge de manœuvre et à utiliser dans des périodes où la croissance faiblit. En France, on s'est endetté à la fois dans les périodes de croissance et dans les périodes de récession. Donc, c'était pas une bonne idée. Mais sinon, si on a un endettement contracyclique, c'est intéressant. C'est comme ça que fonctionne un État moderne. Donc ça, c'est pas un souci. Le fait que les entreprises et les particuliers soient endettés, c'est pas non plus un souci. C'est un facteur aussi de croissance. On n'aurait pas la croissance économique que l'on connaît si les individus ne pouvaient pas s'endetter aussi facilement.
Mais comment vous voyez revenir à la croissance? Parce que pour le moment, on est en décroissance presque. Enfin, c'est pas... Mais vous dites la croissance, mais elle va revenir quand? Comme au Japon, 20 ans?
Ah, ça, c'est clair qu'on est sans doute entré dans une période assez longue de stabilité, voire de décroissance. Moi, au tout début de la crise, j'avais fait une interview à TLM et je leur avais dit on en a pour 10 ans. Il m'a regardé avec des grands yeux, j'avais pris la référence sur le Japon. Et effectivement, des crises comme ça, il faut de nombreuses années pour les résorber. Elle commence à se stabiliser. Mais ce n'est pas évident avec des tels montants. Ça, c'est sûr. Hein. Rien que les intérêts mangent l'impôt sur le revenu. Donc, le problème de la dette, d'ailleurs, ce n'est pas le montant de la dette. C'est ce qui part en intérêt. La dette, elle se renouvelle. La dette, ce n'est pas compliqué à rembourser, une dette. L'État, comment il rembourse sa dette? Il serait en dette. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. En revanche, il faut payer des intérêts.
Quels sont les taux d'intérêt? Quelle est la décision de ne pas être directement en État à 1% comme le fait les banques? Et question subsidiaire, combien ont gagné les banques en 6 ans avec ce que vient avec 1 000 milliards que la BCE déjà prêté?
Oui, alors. La BCE, c'est interdit par Maastricht, effectivement, pour la BCE, donc on l'a vu avec l'indépendance des banques centrales, donc c'est interdit. L'argumentaire, c'est toujours le même, c'est que ça serait inflationniste de revenir à un système d'avance par la banque centrale. Je ne suis pas si sûr que ça, mais... Mais l'argument n'est pas entendu, ne peut pas être entendu. On est tellement habitué à fonctionner avec des mécanismes de marché qu'on a même du mal à imaginer que ça pourrait fonctionner autrement. On a même du mal à imaginer que ça ait pu fonctionner autrement. Quant aux gains des banques, oui, elles font des gains là-dessus. Elles ne font pas non plus des gains extraordinaires. Il y a d'autres secteurs de l'économie qui font plus de gains que les banques. Avec ces gains, les banques paient leurs salariés et puis elles vous paient des intérêts sur un certain nombre de produits bancaires.
On en récupère tous aussi, enfin, un certain nombre de
parties. On repère un coup derrière.
Comment ?
On repère un coup derrière.
Oui, c'est pas gentil.